Transistor.
Un instant, il y aura l'hélium de l'actu.
Transistor. Web.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 13h16. On est le mercredi 11 mars et vous êtes toujours sur Transistor. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un quatrième numéro des entretiens politiques spéciaux pour les municipales. Après trois candidats différents de trois orientations assez variées, quoi qu'on pourrait tous les mettre, les repositionner dans le spectre assez large de la gauche de gouvernement, la gauche électorale. Aujourd'hui, on reçoit deux jeunes militants, Alex et Pauline, qui font partie du mouvement Lutte Ouvrière. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de vous présenter, de dire un petit peu d'où vous venez et puis quelle candidature vous briguez pour ces élections, si vous briguez quelque chose.
Alors bonjour à tous, moi c'est Alex, du coup je suis militant de Lutte Ouvrière et je me présente dans l'arrondissement du 7e à Lyon et à la métropole aussi dans le coin de Caluire. Moi je suis cheminot, donc je suis conducteur de tram-train sur l'Ouest Lyonnais. C'est une petite ligne de l'Ouest Lyonnais qui part de Saint-Paul, voilà. Et voilà, je me suis engagé à Lutte Ouvrière depuis quelques années maintenant parce que j'ai envie de changer cette société où je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice et d'inégalité, et je suis révolté par tout ça, et c'est pour ça que je me présente aussi dans ces élections municipales. Mais bon, on va pouvoir en discuter, mais voilà.
Donc bonjour à tous, moi c'est Pauline. Oui, je milite aussi à Lutte Ouvrière, donc certains ont peut-être pu me voir à la vente à l'UNS, on vend le journal ici. Donc moi j'ai un parcours où j'ai fait de la mécanique et de l'informatique. Là actuellement je travaille en tant qu'informaticienne, et oui pareil, je milite dans la perspective de changer cette société, parce que je pense qu'on pourrait en faire quelque chose de bien mieux que la situation actuelle.
Alors avant de commencer cet entretien, je te posais la question, Pauline, d'où tu allais te présenter, et tu m'as répondu, moi je ne sais plus trop où je me présente pour les métropolitaines. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important pour vous, le fait que vous ne vous attachiez pas tant aux contextes locaux, ça a quand même une importance pour Lutte Ouvrière. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus tous les deux ?
Oui, donc effectivement, moi je suis sur les listes à Villeurbanne où j'habite, et sur les listes aux métropoles, je ne pourrais plus dire exactement quel secteur. Et effectivement, dans ces élections, on ne tient pas spécialement à mettre en avant des mesures très locales. On avait surtout envie de discuter de la société, des deux camps qui s'affrontent. Un peu, je sais pas, il y a eu des mouvements sociaux les derniers temps, on a bien vu que dans cette société, bon, il y a les exploiteurs et les exploités, et nous c'est ça qu'on a envie de faire valoir dans ces élections, et de donner l'opportunité aux travailleurs de voter pour leur camp.
Ouais. Alors, si tu as envie de
ouais, tout à fait, ouais, je suis bien d'accord avec ce qu'elle vient de dire, et puis moi je pense que voilà, notre programme local, nous, c'est de s'organiser en fait, et les élections, ça peut servir à ça, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut nous reprocher de ne pas avoir un catalogue de mesures pour l'arrondissement du 7e ou pour la métropole, mais nous, on pense qu'en fait, toutes ces choses-là, elles dépendront de la mobilisation des travailleurs, de la mobilisation des jeunes aussi, et c'est ça notre programme, en fait, c'est de s'organiser dans les élections, et ça peut servir à ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est bien plus important que de faire des mesures précises pour l'arrondissement du 7e, quand on voit que, de toute façon, avec les crises du capitalisme actuel, toutes les petites mesures locales qu'on peut voir, elles seront balayées en fait s'il y a une vraie crise économique, et on le voit déjà aujourd'hui que la situation est quand même déjà catastrophique pour beaucoup de travailleurs et des classes populaires, notamment dans le 7e.
Alors là justement, on est un peu dans un contexte particulier puisqu'il y a une crise économique, ouais. Je ne sais pas si je devrais dire sans précédent, mais d'une ampleur assez peu égalé, qui est en train de, enfin qui est visible maintenant, les cours économiques s'effondrent, l'activité économique est totalement arrêtée dans certains secteurs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'avez-vous à commenter là-dessus? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et qui a un impact sur la façon dont on vit tous les jours, y compris à l'échelle locale.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été quand même assez frappé là par ce qui s'est passé avec et ce qui se passe encore avec le coronavirus. Quand même, c'est un petit virus quand même qui prend de l'ampleur, et ça crée des cracks boursiers dans tout un tas de pays, notamment en France, aux États-Unis. Là quand même il y a le Dow Jones qui a fait une perte quand même lundi de près de 8%, je crois, ce qui est quand même énorme. Et moi, je pense que toutes ces pertes dans les bourses, ils vont nous le faire payer. En tout cas, ils vont essayer de faire payer aux classes populaires, aux travailleurs, leur crise économique, comme ils le font à chaque fois. Et nous, on pense qu'il faut qu'on s'organise et qu'on se prépare dès maintenant à lutter contre ça. Et c'est quand même représentatif de cette société capitaliste où dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, dès qu'il y a un tweet de Trump ou un virus en Chine, les cours mondiaux peuvent s'effondrer et derrière ils nous font payer la crise et ça fait des moyens en moins pour les hôpitaux, des moyens en moins pour les écoles, pour les transports et ça c'est révoltant moi je trouve et je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens nous de s'organiser, de réfléchir à tout ça et à proposer quand même autre chose que cette société où les profits de quelques-uns valent plus que la santé ou que le bonheur de l'immense majorité de la population.
Alors justement, ça passe par quoi de s'organiser aujourd'hui ? Parce que, bon, on a compris que vous n'étiez pas forcément si attaché que ça au contexte local, mais vous présentez quand même des listes. Vous avez eu l'intention et vous avez eu la volonté d'afficher votre nom sur des pancartes, sur des listes. Par quel symbole, aujourd'hui, ça passe de s'organiser ?
Au-delà des symboles, moi je pense que... déjà, la façon dont on a constitué nos listes, moi je trouve que c'est quand même frappant. On a réussi à trouver des travailleuses, des travailleurs qui acceptent justement, comme tu le dis, on montre notre étiquette, on cache pas nos idées, on les brade pas. Et dans un contexte comme aujourd'hui, on a réussi à trouver des travailleuses et des travailleurs qui acceptent de mettre leur nom sur les listes lutte ouvrière, qui ont accepté parfois de se rencontrer, de discuter entre eux alors qu'ils ne s'étaient jamais vus avant. Des fois même, ils ne nous connaissaient pas très très longtemps avant. Et ça permet quand même de créer des espaces où, oui, on peut discuter de nos problèmes avec comme point de vue le nôtre, quoi. C'est-à-dire que là, on parlait du coronavirus, c'est quand même frappant de voir qu'à la radio, on en parle beaucoup, justement, en disant, bon, les bourses s'effondrent, mais, je veux dire, derrière, c'est quand même la vie de gens, quoi. C'est déjà des gens qui meurent de la maladie du coronavirus, mais en fait, tous les jours, c'est des gens qui meurent de la maladie qui s'appelle le capitalisme. Ouais. Et même de pouvoir en parler, sur notre terrain à nous, enfin, on sent que ça enfin, voilà, des gens qui se rencontrent et qui parlent de leurs intérêts, ils en parlent d'une autre manière. Et bon, il y a mille façons de commencer à s'organiser. Et bon, je pense que même les mouvements, enfin Alex en parlera mieux que moi là sur ce coup-là, mais même dans des quartiers, dans des entreprises, dans des facs, il y a des gens qui se retrouvent. Et puis là, les derniers mouvements, ils l'ont un peu montré. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais...
Mmh. Ouais, c'est sûr. Nous, quand même, on peut faire le constat de la catastrophe du capitalisme actuel, etc. Mais nous, on pense que c'est pas une fatalité tout ça. Quand même ce qu'ont montré les gilets jaunes dans un premier temps et après le mouvement contre la réforme des retraites notamment dans mon entreprise à la SNCF c'est quand même qu'on peut résister, qu'on peut faire des choses et que ce système c'est pas une fatalité. Les travailleurs ils ont les moyens de s'organiser, ils représentent une force en fait gigantesque face à ces gros patrons, face à ces grosses entreprises qui veulent faire la pluie et le beau temps quand même de nos vies. Et ben nous on pense que ouais c'est possible de résister, de s'organiser et la vraie force elle est là, elle n'est pas dans le bulletin de vote. Nous on pense que c'est dans les grèves, dans les mobilisations des travailleurs.
Vous pensez que du coup si j'ai bien compris que ça passera pas forcément par des élections organisées ce genre de mouvement là. Alors pour revenir un petit peu sur le mouvement contre la réforme des retraites par exemple qui s'est rapidement joint dans le contexte par exemple de l'ENS au mouvement contre le LPPR etc. On a organisé à maintes reprises des assemblées générales où il y avait des représentants de votre mouvement. Et puis, vous avez été là, vous avez fait part aux discussions, mais votre position a des fois été décriée par certaines personnes qui disaient que vous avez tendance à essentialiser la posture, la défense des ouvriers à celle de ceux qui travaillent dans les usines, celles qui travaillent dans les personnes qui travaillent dans les secteurs primaires en premier, et à ne pas considérer que les étudiants, par exemple, ou les précaires qui sont dans le secteur de l'enseignement, n'étaient pas forcément à inclure dans ce groupe-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces personnes-là ?
Je pense que tu pourras compléter après, Pauline, mais moi, je pense que c'est pas ça. Nous, on pense que dans un mouvement, les jeunes et les étudiants, c'est une force très importante. Et d'ailleurs, je pense que ça a manqué dans le mouvement contre la réforme des retraites, qu'il y ait des réels mouvements d'ensemble des étudiants. Et nous, on a participé évidemment aux assemblées générales, là où on a des camarades qui sont dans les facultés. Après, moi, je pense que face à Bernard Arnault, face à Bolloré, même face à Macron, en fait, ceux qui ont le pouvoir de remettre en cause leur système, leur société, c'est vrai que c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui produisent les richesses, en fait. Et parce que je pense que le pouvoir dans la société, c'est ces riches qui l'ont, c'est les capitalistes. Et ceux qui font, qui sont aussi riches, c'est quand même ceux qui travaillent pour eux. Et quand même, quand on a mis en place la grève à la SNCF, on a quand même paralysé toute une partie de la France. C'est un pouvoir gigantesque. Et je pense qu'on n'a rien vu encore de tout ça, parce que justement, les travailleurs des grosses entreprises privées, ils n'ont pas encore été assez dans le mouvement. Et là, on aurait vu que la vraie force, elle aurait été là. Et là, on aurait pu leur faire peur. Après, dans les facultés, voilà, moi, le NES, peut-être que tu peux compléter, Pauline.
Bah effectivement, il y a eu des AG dans les facs, à l'ENS. Et je pense que les étudiants, ils ont leur mot à dire. Il y a plein de jeunes là-dedans qui peuvent être révoltés par la société parce que par quelques bouts qu'on la regarde, elle est quand même dégoûtante, cette société dans laquelle on vit. Je pense que oui, il n'y a pas de raison a priori de faire une scission en disant bon, il y a les jeunes, et puis il y a. Je pense que ça dépend aussi vraiment de... Enfin, c'est ce que disait Alex. La question qu'on se pose, je trouve, quand on se mobilise et qu'on veut gagner, c'est comment on fait, à qui on s'en prend et sur quelle force on s'appuie. Moi, je pense qu'il y a aussi vachement de ça. C'est quel levier va être le bon pour que, je sais pas, pour que la précarité étudiante, par exemple, quand il y a des jeunes qui s'immolent dans un des pays les plus riches du monde, comment on fait pour que ça change, quoi. Je veux dire, c'est... Et là-dedans, ouais, je rejoins ce qu'a dit Alex, c'est que aujourd'hui l'argent de la société, en vérité, il y en a de l'argent. Il y aurait de l'argent pour les hôpitaux, il y aurait de l'argent pour résoudre des problèmes dans les facs, pour embaucher des enseignants chercheurs et pas les mettre au statut hyper précaire comme les réformes veulent le faire. Mais du coup, cet argent-là, il va bien falloir à un moment donné qu'on se donne les moyens de le chercher. Qu'on se donne les moyens d'imposer qu'on puisse avoir notre mot à dire, qu'on puisse décider enfin qu'est-ce qu'on en fait, et qu'on gère ça en fonction de nos priorités. Et là-dedans, oui, ceux qui ont la force de le faire, ceux qui ont la force parce qu'ils produisent toutes les richesses, bah, c'est les travailleuses, les travailleurs qui bossent dans les usines, qui se lèvent tous les matins. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de grands mouvements sociaux qui mobilisent toutes ces personnes-là.
Alors en attendant, je sais que ça peut paraître un peu dérisoire comme question, mais il y a des programmes différents qui se présentent à la métropole et à la mairie de Lyon. Et parmi ceux qui ont des chances de se faire élire, il y en a qui ont des positions un peu plus progressistes, qui entendent par exemple dans le cadre des politiques du logement, s'en prendre, je ne sais pas comment formuler ça, mais par exemple... On dit très clairement dans leur programme, et je pense notamment à celui de Lyon en commun, que les logements inutilisés, par exemple, devraient retourner à la mairie. Est-ce que vous êtes dans la position, en tant que mouvement, de soutenir un programme particulier au second tour des municipales ou des métropolitaines ?
Non, je pense que déjà, là, il y a le premier tour. Donc, on verra d'ici là. Et je pense que, bon...
Très bien, mais soyons réalistes.
Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, de toute façon, on ne pense pas qu'on va gagner cette élection. Mais quand même, pour répondre à votre question sur ça, par exemple, sur les logements vides, il y a une loi qui existe en France, en fait, depuis des années, sur la réquisition des logements vides. Et en fait, elle n'est pas appliquée, tout simplement, parce que la propriété privée de ces logements-là, elle est à des propriétaires, justement, des grands propriétaires immobiliers, et qui ne veulent pas leur lâcher, ces logements-là. Et ça, qui c'est qui va leur imposer, en fait ? Nous, on pense que c'est pas un maire avec un beau discours ou avec une belle loi. On pense qu'il faut aller les chercher, ces logements. Et c'est comme tout. Dans la vie des travailleurs, il faut se battre pour tout. Pour avoir un travail, pour avoir un logement, pour finir son mois, pour partir en vacances, pour ceux qui y arrivent. Pour tout, il faut se battre. Et nous, on pense qu'il n'y aura pas de... Même un joli programme, bien de gauche, qui va nous faire des promesses sur des logements ou sur une ville bien verte, bien jolie. Tout ça, en fait, nous, on pense que c'est des illusions et que pour ça, il va falloir se battre. Et nous, on compte sur la force des classes populaires pour aller chercher ces choses-là. Et certainement pas sur un maire ou un conseil municipal, quoi.
Alors revenons justement, vous parlez de ville bien verte. Revenons un petit peu sur le fond, parce qu'il y a... j'ai l'impression que un des arguments de l'électorat de gauche, quand on leur parle... de partis comme Lutte Ouvrière ou le NPA, c'est qu'il n'y a pas de programme écologique. Il n'y a pas de proposition ou même pas de, forcément de constats qui sont faits en termes d'écologie dans votre programme. Je vous vois rigoler. qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Moi, je trouve que la ficelle est grosse de dire qu'on n'a pas de programme écologique, parce que, enfin, je sais pas, quand même, les problèmes écologiques, on va pas se mentir, les premiers à souffrir de la pollution, de l'air irrespirable, des produits chimiques à Saint-Fond, et partout dans le monde, en fait, c'est les travailleurs et les travailleuses. Honnêtement, et je trouve que, en fait, c'est une préoccupation... Enfin, qui a déjà été dans le mouvement ouvrier, ça a déjà été une préoccupation. Et en fait, c'est pas parce qu'on est communiste qu'on dit que l'écologie ça ne sert à rien. Bien au contraire, c'est même, aujourd'hui, si on veut avoir la préoccupation de vraiment sauver la planète, il faut avoir dans l'idée de, à nouveau, qui c'est qui pollue ou qui sont les responsables là-dedans. Et à nouveau, de la même manière que des décrets sur les logements, ça empêche pas, enfin, ça forcera jamais les propriétaires d'immeubles à filer leurs appartements pour y loger des sans domicile fixe ou des gens qui viennent, enfin, des migrants. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui obligerait aujourd'hui Total à appliquer une loi qui lui demanderait de mettre des filtres de pollution. Et puis alors toutes les mesures qui sont de dire on va mettre des pistes cyclables et tout. Moi, quelque part, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit la catastrophe qui se présente à nous, je veux dire, l'écologie, c'est un problème qui s'établit à l'échelle mondiale. Je ne vois pas comment on peut penser... ce problème-là à une échelle plus petite, quoi. Et je sais pas, par exemple, il y a eu un maire il n'y a pas très longtemps là, qui voulait faire un décret sur la distance entre les zones d'épandage de pesticides et les habitations. Bon, le résultat du cours, c'est que sa décision, elle a été recalée, quoi. Et je trouve que ça montre bien un peu qui c'est qui décide dans cette société. Donc même quand bien même, effectivement, il y a des préoccupations écologiques, et nous on en a, enfin, je veux dire, on ne va pas dire le contraire, quoi. Mais il faut toujours se poser la question, comment on fait vraiment pour adresser le problème.
Ouais, enfin, de manière un peu plus large, et c'est juste pour revenir un petit peu là-dessus, j'ai l'impression que ceux qui décrivent votre approche ont tendance à dire que vous avez trop tendance à considérer l'économie comme l'écologie, pardon, comme étant faisant partie d'un tout social, mais que des fois il y a certaines limites physiques qui s'imposent, c'est-à-dire que le problème, par exemple, de la société de consommation, c'est aussi un problème de production. Et une des idéologies, par exemple, qui sont vraiment développées en ce moment dans la gauche philosophique, c'est celle de la décroissance. C'est celle du fait qu'il faudrait peut-être réfléchir à ces choses-là. Et il y a certaines personnes qui disent que ça contredit, que ça pourrait avoir tendance à contredire une approche productiviste des systèmes économiques.
Moi, je ne sais pas si on est productiviste. Voilà. Moi, je pense que la décroissance, c'est quand même l'idée qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, de toute façon, et qu'il va falloir qu'on réduise... la consommation ou des choses comme ça. Déjà, moi, ça me révolte profondément parce que je pense qu'il y a énormément de personnes sur cette planète qui n'ont pas assez, en fait. Qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont pas accès à des transports, à de la santé, etc. Moi, je pense qu'il manque beaucoup de choses à l'échelle de la planète et c'est ça qu'il faudrait régler déjà, quand même. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'une société débarrassée du capitalisme où il y a quelques fortunes qui possèdent tout, on pourrait imaginer plein d'autres choses. Et moi, je pense que ça développerait largement les moyens et toutes les ressources qu'on pourrait avoir, en fait. Et je pense qu'il y a plein de ressources qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il y a des dizaines d'années ou il y a plusieurs générations, il y avait plein de ressources qu'on ne connaissait pas encore. Et moi, je pense que le seul moyen de développer vraiment les moyens et de développer l'écologie, c'est de renverser ce système et de mettre en place une économie qui serait planifiée, qui serait organisée. Par exemple, dans plein d'échanges économiques, il y a des choses qui sont absurdes, et ça on le reconnaît. Et c'est complètement ridicule de vendre des dizaines de tonnes de poulet à un pays et après de leur racheter, évidemment. Et quand on voit tous les circuits qui sont utilisés par l'économie capitaliste pour les échanges, il y a plein de choses qui sont absurdes, ça c'est évident. Mais de penser que de relocaliser tout ça va régler des problèmes. Je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil, parce que ça réglera rien. Et en fait, au contraire, il faudrait planifier à grande échelle. Ça permettrait justement d'éviter des gâchis.
Alors justement, pour reprendre l'exemple des poulets, enfin, il y a des gens qui se disent que bah, ce serait mieux s'il n'y avait pas ces dizaines de millions de poulets, justement. Que, je pense que de façon un peu plus simple, ce n'est pas forcément le problème de la croissance en général et de la prospérité qui est posée par la décroissance, c'est le problème de la croissance économique. Hein. Le problème de la production de richesse qui, évidemment, est concentrée. Et ça, personne n'a tendance à... très peu de gens le nient. Sinon ceux qui se fourrent le doigt dans l'œil. C'est étonnant parce que avec vous, on commence par un débat sur les municipales et on arrive au bout de 20 minutes à des débats à échelle globale sur ce que c'est vraiment les systèmes de production. Mais c'est ça votre approche aussi. Et j'aimerais justement un peu parler de votre approche, de la façon dont vous militez et surtout de la façon dont vous vous organisez en tant que mouvement. À l'échelle de Lyon, parce que ça peut être intéressant justement de décaler un peu notre point de vue et au lieu de parler des élections, de parler de la façon dont vous travaillez en tant que groupe militant. Alors, comment ça se passe une journée chez vous? Alors, il y a un mode d'action. Quel est votre mode d'action? Qu'est-ce que vous priorisez? On se pose la question, hein, parce que on est beaucoup à vous voir distribuer vos journaux, mais on n'est pas beaucoup à vraiment savoir ce qui se passe.
Ok. Ouais, je sais pas, déjà, ce qu'on peut constater quand même sur les listes, c'est que bon, tout le monde a une profession qui demande d'aller au boulot pour gagner sa croûte. Ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose dont on est fier, quoi, de se dire que voilà, parmi nous, c'est des travailleuses, des travailleurs qui font partie de ce monde-là et qui se lèvent le matin pour aller gagner leur croûte. Bon, après, d'un point de vue militant, je pense que on milite là aussi où on est, quoi. Je veux dire, on a parlé des facs tout à l'heure. Oui, quand on est étudiant, bah, on milite auprès de ses potes de classe, on milite auprès de ses camarades. Bon, effectivement, on vend le journal, mais je pense que tu as remarqué qu'on essaye aussi de discuter. On fait pas que vendre du papier, quoi. Mais souvent, le journal, c'est un support, quoi. On est là, on cherche ce qui, dans l'actualité, en révolte certains, fait poser des questions à d'autres. Il arrive qu'on soit pas d'accord avec les gens qu'on interpelle. Des fois, il arrive que les discussions vont un peu plus loin et... On cherche comme ça, cherche à trouver des points d'appui et des gens qui soient révoltés par cette société et qui ont envie de la changer avec nous.
Ouais, c'est sûr. Et puis, on milite surtout, je pense que ce qui nous différencie quand même de beaucoup de partis, c'est qu'on milite en direction de la classe ouvrière et parmi la classe ouvrière. Et ça, c'est une grosse différence avec beaucoup quand même de partis de gauche. Et on milite d'ailleurs pas que pendant les élections. Et en fait, voilà, on pense qu'au quotidien, il faut s'organiser tout le temps, partout, dans son entreprise, dans son quartier, dans son bâtiment, voilà, partout où on peut. Et puis voilà, on essaye de faire que les gens ils s'expriment. Je pense que c'est ça aussi le sens de notre candidature. C'est pas juste pour nous faire des choses, c'est aussi que des travailleurs autour de nous et que le plus de travailleurs possible ils aient la possibilité d'exprimer leur colère. Et ça, c'est quand même important parce que au quotidien, nous, on voit quand on essaie de faire des réunions, des choses comme ça. Je pense que le monde du travail, il n'est pas habitué à s'exprimer. Il n'est pas habitué à dire sa colère, à donner son avis, même ne serait-ce que donner son avis, même sur n'importe quel sujet. Et même sur des sujets locaux, on parlait tout à l'heure d'avoir un programme local. Nous, on pense que les travailleurs, ils ont plein de choses à dire. Mais pour ça, il faut qu'ils s'expriment. Et nous, c'est aussi le sens de notre candidature. C'est aussi ça, quoi.
Justement, enfin, on vous entend beaucoup mentionner la classe populaire, les travailleurs, les gens. Bon, ce sont des termes qui nous interrogent parce que on se demande toujours, et c'est pour ça que je vous posais ma question d'avant, c'est comment vous arrivez à vous mettre en contact avec cette classe-là et surtout ce que c'est aujourd'hui un travailleur. Parce qu'ici, évidemment, on est à l'ENS, on est dans un milieu où il n'y a pas que des personnes qui travaillent dans la recherche. Il y a aussi des personnels qui sont d'ailleurs la plupart du temps sous-traités, qui sont là, ce qu'on pourrait caricaturalement appeler des travailleurs, des travailleuses. Mais on se pose la question, nous aussi, en tant que futurs enseignants ou déjà pour certains enseignants, si nous aussi, on est des travailleurs. C'est une question sérieuse. Est-ce que nous aussi, on est des travailleurs à partir du moment où on se dit, si on a une analyse un peu marxiste de la chose, un travailleur, c'est celui qui met à disposition son corps au capitaliste, et ben, d'une certaine manière, et ben, notre tête, notre esprit, c'est notre corps aussi. Et donc, vraiment, on a et en fait, la seconde partie de ma question, c'est est-ce que vous avez l'impression que, sous cette définition large, tout le monde est inclus dans votre stratégie, de parti ?
Bah justement, tout le monde, non. Et nous, par exemple, on ne dit pas français, française ou citoyen, citoyenne.
Mes chers compatriotes.
Voilà. nous, on dit travailleur, mais par contre, bien sûr que toutes les personnes en fait, qui n'exploitent pas les autres, c'est-à-dire qui ne gagnent pas de l'argent sur le travail des autres, sont des travailleurs. Et évidemment que les enseignants sont des travailleurs. Et on a plein de camarades qui sont enseignants et qui sont sur nos listes. Et c'est évidemment des travailleurs. Et je pense que ce mot-là, en fait, il a un sens dans toute une partie de la population. Et quand on va justement devant des usines, dans des entreprises ou dans des quartiers, on n'a pas besoin d'expliquer ce que veut dire le mot travail. Parce que les gens, ils le vivent au quotidien. Et je pense que voilà, c'est comme tu dis, la définition marxiste, bah, bien sûr, c'est ça.
Bon, une dernière petite question. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer le dimanche prochain Quels sont les scénarios probables? Qu'est-ce que vous attendez de ces municipales finalement? C'est un peu cynique comme question, je sais, mais il faut finir par là. Hein.
Bon, je pense que personne autour de cette table n'a de boule de cristal. Personne ne s'appelle Madame Irma. Moi, je sais pas. Je pense que bon. Voilà, les partis qui sont en place et qui ont l'habitude d'être là, de gauche comme de droite, bon, ils sont dans le coup, ils font leur campagne, probablement qu'ils brigueront les mairies qu'ils avaient comme objectif de briguer. Bon, la question que se posent les gens aussi actuellement, je trouve quand même beaucoup dans les municipales, c'est quelle va être la place de l'extrême droite là-dedans. Quand même, c'est des idées qui montent. Et moi, j'ai envie de dire, bon, quelque part, le score, bah, bien sûr, nous, on milite, on se présente. Bien sûr, si Lutte Ouvrière faisait un gros score, ça dirait quelque chose de l'état d'esprit des travailleurs dans la société. Et ça dirait quelque chose de l'état d'esprit de la situation sociale, quoi. Bon, en attendant, ça permet quand même d'être là, d'exprimer la colère des travailleurs. Et bon, ça... Je ne sais pas si la question, c'était un peu en fonction de vos résultats, dans quel état d'esprit vous seriez, mais j'ai l'impression que ça sonnait un peu comme ça. Moi, je veux dire, ce que disait Alex tout à l'heure, c'est juste, voilà, nous, on milite au quotidien, on n'attend pas les municipales spécialement pour militer. Après, voilà, ça reste un moment où les travailleurs et les travailleuses y sont attentifs, on leur demande leur avis, on leur donne la possibilité de s'exprimer, et nous, c'est pour ça qu'on est là, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis moi, je trouve que... Moi, ce que j'attends des résultats de dimanche, c'est que oui, dans les 260 listes là, qu'on a réussi à présenter au municipal, eh ben, qu'il y ait le maximum de travailleurs qui votent pour leur camp, qui votent pour leur classe. Et, puis, vous savez, malgré tout, c'est vrai qu'on fait des petits scores. On nous dit vous faites des petits scores, mais chaque vote pour Lutte Ouvrière, bah, c'est un vote de révolte, c'est un vote de combat. Et ça, c'est une fierté. Et si on a pu permettre à des centaines, quelques milliers de travailleurs de dire leur colère et de l'exprimer, bah, ce sera déjà très très bien et nous on en sera très contents et ce sera déjà ça pour l'avenir. Et moi je pense que c'est comme ça qu'on voit les élections, nous en tout cas. Voilà.
Dernière question, quand même ça peut être un peu stéréotypé, mais vous parlez de la montée de l'extrême droite dans ces élections locales et on connaît tous ce que ça peut impliquer d'avoir une mairie Front National.
C'est sûr.
Est-ce que vous, même si vous ne voulez pas forcément appeler au vote au deuxième tour, vous appellerez à voter contre ou juste pas pour le Front National au deuxième tour ?
Moi, je pense que voilà, évidemment que c'est très inquiétant, la montée du Front National, et même plus que ça. Moi, je pense que c'est la montée des idées d'extrême droite, des idées racistes, des idées réactionnaires. C'est ça qui nous inquiète, et ça, c'est pas propre au Front National ou au Rassemblement National, d'ailleurs, maintenant, pardon.
Et, c'est pas grave.
Et nous, c'est ça, notre combat. Et ça, on le combat dans les élections et en dehors. Et je pense que Voilà, comme quand même pendant les présidentielles, on nous a expliqué qu'il fallait voter Macron contre Le Pen. Moi, je pense que c'est justement ces partis-là qui font monter ces idées-là. Mmh. Parce que les partis de gauche comme de droite, ils ont fait des belles promesses, ils ont trahi les gens, ils ont trahi les classes populaires. Et c'est sûr que malheureusement, du coup, il y a une partie des travailleurs, une partie de la population qui vote pour le Rassemblement National. Mais de croire qu'on va combattre les idées du Front National avec un bulletin de vote, c'est pour ces partis de gauche ou de droite là qui sont au final, c'est une illusion, quoi, je veux dire, pardon. Et puis d'ailleurs, quand on regarde quand même leurs idées, c'est le gouvernement de gauche qui a mis en place la déchéance de nationalité. C'est ces gouvernements-là qui ont intensifié la lutte contre les migrants, par exemple. Donc bon, moi je pense que voter pour la gauche et de croire que ça va nous prémunir contre le Rassemblement National, moi je suis pas sûr que ça marche bien. Ouais.
Merci à vous deux pour cet entretien.
Merci.
Merci.
Puis je vous rappelle, vous qui voulez voter ou ne pas voter, montrez votre mécontentement ou votre joie de vous renseigner au moins sur ce qui se passe dimanche prochain. Et puis à la prochaine sur Transistor.